Je crois que l'important, c'est d'asseoir le lecteur avec nous à table. Il doit se téléporter comme s'il était avec nous pour le repas. Donc, faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut qu'il puisse deviner, qu'il puisse sentir les odeurs, qu'il puisse deviner le bruit qu'il y a dans la salle, deviner comment elle service.
Avec l'apparition des restaurants vont apparaître des nouveaux discours à la fois critiques et médiatiques sur l'alimentation qui vont permettre d'intellectualiser cette expérience de la consommation alimentaire. Et la gastronomie en tant que pratique culturelle va aussi apparaître à ce moment-là comme un point de vue esthétique sur le fait de manger.
Moi, je paye mes additions. Alors, on te dira, ça ne fait aucune différence le fait de payer. J'ai de la chance de travailler pour un média qui me rembourse l'addition. Hein. Donc, j'ai aucun mérite là-dessus, j'ai cette chance-là, puisque ça peut me permettre de dire ce que je veux.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Manger et donner son avis. Je ne me souviens pas avoir vu ces deux compétences mises en avant dans les fiches ONICEP que la conseillère d'orientation nous montrait au lycée. Et pourtant, le métier de critique culinaire existe en France depuis le début du 19e siècle. Dans quel salon feutré cette activité est-elle née? Comment l'art de juger les plats des autres est-il devenu une profession? Et sur quels critères choisit-on de critiquer la nourriture au juste? Quel est le sens des classements étoilés? À quoi riment ces grandes messes récompensant chaque année les soi-disant meilleurs restaurants au monde? Peut-on décemment hiérarchiser la cuisine sans tomber dans des biais occidentalo-centrés? Et d'abord, la critique culinaire, est-ce que c'est pas un truc de riche par hasard? Dans cette série, mettons les pieds dans le plat et allons disséquer le travail des plumes, tantôt enjôleuses, tantôt acerbes, qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la réputation des restaurants. Partons à la rencontre de ce métier mystérieux et parfois, ironiquement, critiqué. Un jour pour ses courbettes injustifiées, le lendemain pour son injuste sévérité. Alors, de quoi la critique gastronomique est-elle le nom ? Quand je prévois de passer du temps dans une ville que je ne connais pas, mon premier réflexe est de réfléchir avec le ventre. Où vais-je bien pouvoir y manger? Quelles sont les bonnes cantines, les meilleurs bistrots de quartier, les tables intéressantes du moment? C'est ensuite souvent à partir de cette cartographie du bien manger que je réfléchis à des balades possibles, des itinéraires qui vont me faire passer d'un coin à un autre de la ville. Pour identifier ces lieux où casser la croûte en deux-deux ou s'attabler longuement, j'en passe souvent d'abord par la recommandation orale. Rien de tel que d'être conseillé par des gens qui viennent du coin. J'ai aussi, sur Mapster, une liste de restos mis de côté au gré des clics, parce qu'une image publiée sur les réseaux sociaux m'a fait saliver, par exemple. Et puis, en plus de ces deux sources d'inspiration, il y a les critiques de restaurants. Il m'arrive d'en consulter, par exemple, lorsque j'hésite entre deux adresses ou que j'ai besoin d'en savoir plus sur un lieu avant d'envisager d'y réserver une table pour 6. Ambiance, type de plat, style de la cuisine, fourchette de prix, les critiques de restaurants permettent de savoir en amont où l'on va mettre les pieds. Pour en savoir plus sur l'art de la critique de restaurant, j'ai tendu le micro à Thibaut Dananchet, journaliste gastronomique depuis 2009 et critique culinaire depuis 2014 dans les pages du Point. La première fois que j'ai rencontré Thibaut, c'était à Bruxelles, au restaurant Beaux-Arts, une étoile au guide Michelin où l'on peut découvrir la cuisine du talentueux chef Karen Torossian, le tout dans un écrin art déco du Palais des Beaux-Arts de Victor Horta. J'ai demandé à Thibaut de me raconter ce à quoi il a été sensible chez Beaux-Arts avant d'écrire sa critique.
Déjà, un critère qui est primordial, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'assiette. Aujourd'hui, les gens vont quand même au restaurant d'abord pour manger, pour vivre un moment à table. Et en fait, il est important qu'en fait, que le chef, son identité culinaire, qu'il annonce et qu'il propose, soit en adéquation avec ce qu'il joue dans l'assiette. Donc moi, j'allais à Beaux-Arts, surtout pour goûter les fameuses croûtes. C'est comme ça que les appelle Karen Torossian. C'est pâte feuilletée, c'est tourte. C'est pitivier et la promesse a été grandement tenue puisqu'on avait mangé à l'époque un granivore qui était un plat autour du pigeon du Mont-Royal en Belgique. Ça avait été un moment vraiment délicieux puisque c'est un exercice auquel ne se risquent plus beaucoup de chefs aujourd'hui, les tourtes ou les pâtes feuilletées. Donc j'avais déjà retenu cette expérience à table et puis ensuite c'est important que le service entre guillemets, vendre bien la cuisine du chef et soit le prolongement de la cuisine. Ce qui avait été également le cas. Et pour ne rien gâcher au spectacle, le décor de la salle était formidable. Je me rappelle de ces... Il y a différents box dans la salle. Il y a une cuisine qui est ouverte. On a vu sur la rue. La salle est lumineuse et claire. Et puis, c'est vraiment très art déco, quoi, ce décor de restaurant. Donc, la promesse était tenue aussi bien au niveau de la table que du service et du décor.
Quel est l'objectif d'une critique de restaurant? Quelles sont, au fond, les missions à remplir lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un tel texte?
L'important, c'est d'asseoir le lecteur avec nous à table. Il doit se téléporter comme s'il était avec nous pour le repas. Donc, il faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut qu'il puisse deviner, qu'il puisse sentir les odeurs, qu'il puisse deviner le bruit qu'il y a dans la salle, deviner comment elle service. C'est important qu'il s'immerge avec nous. Voilà, on est les yeux du lecteur et on lui raconte après le moment qu'on a vécu. Voilà, donc il doit savoir à la fin du papier s'il a envie d'aller dans ce restaurant ou s'il préfère repousser chemin pour aller ailleurs. C'est ça qui est important aujourd'hui. On doit vraiment être les yeux du convive aussi bien sur la qualité de l'assiette, la qualité du service, la qualité du décor. Puis il y a aussi un nerf de la guerre, c'est le prix, quoi. Quand quelqu'un n'a pas aimé un restaurant, le prix, ça sera toujours trop cher.
Il y a, au fond, plusieurs manières d'aborder cet exercice. Certains critiques culinaires s'attachent à présenter la personnalité du ou de la chef, ses inspirations, sa manière d'être en cuisine. D'autres tiennent à détailler l'ambiance qui règne dans le restaurant, sa décoration, la faune qui l'occupe. Pour Thibaut Dananché, c'est précisément ce qui se passe dans l'assiette qui aura avant tout son attention.
Moi, j'aime bien exactement décrire le plat de manière minutieuse, de prendre son temps pour l'expliquer. Et il faut aujourd'hui que le lecteur puisse comprendre pourquoi on a aimé le plat ou pourquoi on n'a pas aimé le plat. C'est important de se justifier, ça reste subjectif, hein. C'est un avis extérieur, c'est pas une science, la cuisine et la gastronomie. Donc on doit à chaque fois, pour moi en tout cas, à mes yeux, justifier pourquoi on a aimé un plat ou pourquoi on n'a pas aimé un plat. Pareil pour le service, pareil pour le décor. C'est quelque chose aujourd'hui qui me semble essentiel et incontournable dans la critique.
Mais d'abord, depuis quand écrit-on sur les restaurants? Comment est né l'exercice de la critique culinaire? Sidonie Nolin est maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Grenoble et chercheuse en sociologie de l'alimentation. Elle raconte que la fonction de critique culinaire est née au tournant du 19e siècle, en même temps que naît le lieu du restaurant.
Alors, la fonction de critique culinaire est née de manière concomitante avec deux autres choses, avec l'apparition de la notion de gastronomie, aussi l'apparition du restaurant en tant qu'établissement de restauration. Et tout ça, la critique culinaire, la gastronomie et le restaurant sont nés au tournant du 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle. Au départ, pour qu'apparaisse la critique culinaire, il fallait que les restaurants existent. On date le tout premier restaurant comme étant né à Paris en 1765. Alors c'est controversé, les historiens débattent de cette question, mais la date qu'on retient en général est celle-ci. Et auparavant, il y avait déjà des auberges qui servaient des repas. Ce qui change avec la forme restaurant, c'est qu'on peut prendre ses repas à toute heure de la journée et non plus à heure fixe, qu'on a une proposition de différents plats et non pas un menu unique, que chaque plat, par ailleurs, a un prix qui lui est propre, donc on peut choisir à la carte d'une certaine manière, et puis qu'il est possible aussi de manger de manière individuelle, sur des tables individuelles, alors même qu'on est dans un espace collectif. Et au départ, ces premiers restaurants qui naissent donc à Paris essentiellement sont des lieux plutôt luxueux, réservés à des gens relativement aisés, et ce type d'établissement va se multiplier à la fin du 18e, au début du 19e siècle, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a une évolution des cadres juridiques, donc le système corporatif qui auparavant, les corporations étaient très réglementées. Ce système va être démantelé avec la Révolution française et donc ça va permettre un essor de l'entrepreneuriat et de la concurrence qui va se développer dans le secteur de la restauration et dans d'autres secteurs évidemment. Il y a aussi en parallèle l'exil des aristocrates après la Révolution française qui laissent leurs cuisiniers particuliers sans emploi et donc ces derniers vont se lancer dans la restauration commerciale plutôt une restauration commerciale de qualité. Et en même temps, de manière concomitante, il y a aussi des nouvelles élites qui apparaissent avec la bourgeoisie qui va commencer à prendre le pouvoir et qui va constituer une clientèle, notamment avec aussi le déplacement du pouvoir de Versailles vers Paris. Donc les restaurants vont se développer à Paris. Tout ça, joint à une forme de croissance démographique, va permettre le développement de la restauration. Alors ça, c'est ce que montraient des historiennes, notamment Rebecca Spang et Priscilla Parkhurst Ferguson, qui ont travaillé sur cette époque charnière de la naissance des restaurants.
Et c'est dans le sillage de l'invention du restaurant que s'épanouissent de nouveaux discours sur l'alimentation, liés à un regard intellectuel et esthétique sur la cuisine. À travers les critiques de restaurants se dessine alors le goût de l'époque, autant que la transmission de certains us et coutumes de la haute cuisine.
Avec l'apparition des restaurants vont apparaître des nouveaux discours à la fois critiques et médiatiques sur l'alimentation qui vont permettre d'intellectualiser cette expérience de la consommation alimentaire. Et la gastronomie en tant que pratique culturelle va aussi apparaître à ce moment-là. La gastronomie en fait peut être définie comme un point de vue esthétique sur le fait de manger et sur une attention portée au goût. Alors, cette conception esthétique d'alimentation, elle est relativement neuve au XIXe siècle. Auparavant, il y avait déjà énormément de discours sur l'alimentation et la nourriture, mais qui étaient des discours soit d'ordre diététique, notamment des prescriptions religieuses sur ce qu'il faut manger et ne pas manger, et des prescriptions diététiques aussi qui émanaient du corps médical, du rapport entre la santé et l'alimentation. Il y avait aussi des discours poétiques des sociétés d'amateurs, notamment, et puis aussi des discours plus techniques qui étaient ceux des cuisiniers eux-mêmes qui écrivaient des livres de cuisine. Mais ce discours purement esthétique, portant vraiment sur le goût des choses, était relativement inédit et va se développer en même temps que se développe à la fin du XIXe siècle le monde de l'édition et des médias. Donc c'est vraiment des choses qui se font en même temps. Et c'est aussi une période où se développent d'autres types de discours esthétiques et d'autres formes de critiques, la critique littéraire, la critique dramatique, théâtrale, etc. sont aussi des formes qui vont beaucoup prendre de l'ampleur à cette époque-là, à la fin du 19e. Donc la gastronomie et la critique gastronomique vont être dans ce mouvement en fait d'esthétisation et de conception de l'alimentation, plus comme simplement quelque chose qui donne la santé ou qui est nécessaire pour la survie, mais comme quelque chose qui fait partie de la culture et peut-être étudier, regarder comme on regarde les œuvres culturelles. Les premiers critiques, il y a plusieurs noms qui peuvent être évoqués, Grimaud de la Reynière notamment, qui est un des premiers à inventer à la fois le guide gastronomique, le magazine gastronomique, et puis il a créé aussi les premiers jurys de dégustation au tournant des années 1800. Donc il a inventé plusieurs formats en fait qui vont ensuite donner lieu à la critique gastronomique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien critique de théâtre. Donc en fait, il a transposé des façons d'aborder la culture du domaine théâtral au domaine de l'alimentation. Il a aussi un rôle de passeur parce qu'il est lui-même issu de l'aristocratie, donc il connaît les codes et en même temps, c'est une aristocratie déchue qui, et lui, fréquente davantage la bourgeoisie. Donc il va transmettre les codes de la haute cuisine aristocratique vers la bourgeoisie, ce qui est aussi le mouvement qui s'est produit à cette époque-là. C'est parce que le goût pour la bonne chère a été diffusé auprès de la bourgeoisie que ce rôle de la critique a émergé pour, au départ, guider les consommateurs. En fait, alors, une des thèses pour expliquer la naissance de la critique gastronomique à cette époque-là, c'est effectivement, on a des nouveaux établissements de restauration qui apparaissent. On a aussi une nouvelle clientèle bourgeoise qui ne connaît pas forcément les codes de la haute cuisine aristocratique. Et donc, il va falloir qu'il y ait des intermédiaires pour les guider, ces nouveaux clients, vers ce qui sera adapté à leur goût et pour leur apprendre aussi les codes de la haute cuisine.
Cette vision historique du critique culinaire a traversé les époques. Mais comme nous le verrons au cours de cette série, les profils de critiques culinaires se sont également fortement diversifiés au cours du temps. Selon le média et le public visé, les restaurants chroniqués ne sont pas les mêmes, les formats sont multiples et le vocabulaire utilisé diffère. Entre les influenceurs food qui abreuvent leur commu de Reels sur Insta, le fooding qui a contribué à dessiner une esthétique de la bistronomie et les pages gastronomie de l'Express par exemple, il est tout à fait clair que la cible n'est pas la même. Mais si l'on regarde plus généralement du côté de la réception, il y a tout de même deux points communs qui reviennent dans les attentes des consommateurs et consommatrices de critiques de restaurants. Deux critères qui font office de garant de l'authenticité d'une critique. D'abord, le fait de venir incognito et de payer sa note, comme preuve de liberté d'écriture dans la critique, et ensuite, la capacité à également se fendre de critiques négatives lorsque c'est mérité. Thibaut Dananchet à propos du fait de venir incognito et de payer sa note.
Alors moi, je me suis jamais annoncé dans les restaurants quand je faisais des chroniques. Hein. Alors quand je fais des portraits, bien sûr qu'il faut s'annoncer au chef parce qu'on a besoin de le rencontrer et de le voir. Ou quand on fait un reportage sur un restaurant, bien sûr qu'on doit s'annoncer. Mais quand je faisais des critiques, je me suis jamais annoncé. Je faisais beaucoup de chroniques, que ça soit en France, en province, à Paris ou à l'étranger. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de pas s'annoncer. Alors, il y a plein de... J'aimais bien découvrir de nouvelles adresses, donc je réservais ces adresses-là sous mon nom, mais personne ne me repérait. Et ensuite, quand je faisais des restaurants qui pouvaient être étoilés ou des plus grands restaurants ou alors des chefs qui ont une bonne connaissance du milieu des chroniqueurs gastronomiques, je réservais toujours sous un faux nom. Je pense que c'est important de y aller incognito parce qu'en fait, il faut qu'on soit le client lambda. Donc, il faut qu'on soit absolument bien... traité comme tout le monde sans avoir de privilèges. Et régler sa note me semble quelque chose d'important. À l'époque où j'ai fait des chroniques pour Le Point, certains chefs ont voulu m'inviter, mais par bienveillance ou par gentillesse. Et je leur ai dit, ce qu'ils m'avaient reconnu, je leur ai dit, c'est simple, s'il n'y a pas d'addition, il n'y aura pas de papier. Je pense que c'est, à mes yeux, très important. De régler sa note et de ne pas s'annoncer, voilà, parce que peut-être que le chef va faire plus attention à notre assiette dans les dressages, peut-être qu'il s'il y a un plat autour d'un produit noble, imaginons la truffe, il va peut-être en mettre plus dans l'assiette. Il est important d'avoir l'expérience de monsieur tout le monde, je crois.
Toujours pour Thibaut Dananchet, la critique négative est souhaitable tant qu'elle est justifiée.
Alors moi, je me suis jamais interdit de publier une critique négative. Je pense que quand un restaurant est bien, il faut le dire. Quand on a moins apprécié un restaurant, il faut le dire également. Et c'est pas parce qu'on a apprécié moins un restaurant que c'est définitif. J'ai plusieurs cas me concernant où je suis allé une première fois dans un restaurant où la critique avait été négative. Ça ne m'a pas empêché d'y retourner, d'être capable de me déjuger. Parce que j'estime que d'aller dans un restaurant une seule fois, c'est comme si on voyait un seul match d'une équipe de football pendant une saison et c'est pas forcément représentatif de la saison. Donc il faut savoir y retourner une deuxième fois pour soit entériner ce qu'on a déjà dit, soit dire le contraire. Et ça m'est déjà arrivé, à contrario, d'aller dans un restaurant, d'en dire du bien et d'y retourner une deuxième fois parce que j'ai trouvé que c'était pas au niveau la deuxième fois et d'en dire des choses négatives. Donc, je pense que c'est important de dire quand c'est positif, important de dire quand c'est négatif. Et alors, on n'a pas forcément en France les moyens de la presse anglo-saxonne, mais au New York Times, par exemple, ils ne publient jamais une chronique avant d'aller trois fois dans le même restaurant. Donc, ça veut dire que quand on y va déjà trois fois, on peut avoir une idée vraiment de ce qui s'y joue. Ils y vont à midi où ils prennent un menu déjeuner. Ils y vont un soir où ils prennent à la carte s'il y a une carte. Ils y vont à un autre moment et ils prennent le grand menu. Donc, ça permet d'avoir vraiment une idée précise. Donc, non, moi, je pense qu'il faut dire quand c'est bien et dire quand c'est moins bien.
J'ai trouvé intéressant ici de pouvoir recueillir l'avis de Thibaut Dananchet qui écrit pour les pages du Point parce que l'exercice de la critique culinaire qu'il y fait est assez représentatif de cette image d'Épinal du journaliste soutenu par sa rédaction qui paye sa note et n'accepte pas les invitations qui finissent toujours par impliquer une relation de donnant-donnant. Mais rappelons-le, tous les journalistes culinaires n'ont pas systématiquement la possibilité de travailler dans ces conditions. Certaines rédactions n'allouent pas de budget au défraiement des critiques, obligeant ainsi les journalistes culinaires à accepter certaines invitations si ils et elles veulent pouvoir écrire. Mais selon cette dernière catégorie de critiques culinaires, le libre arbitre peut néanmoins être conservé, y compris dans ces situations. Car après tout, le critique littéraire, par exemple, n'achète pas chacun des livres qu'il chronique. La plupart du temps, ces livres sont des exemplaires presse envoyés par les maisons d'édition, ce qui n'a jamais empêché les chroniques littéraires d'être, a priori, sincères et parfois même très sévères. On entend alors souvent des critiques culinaires assurer que la gratuité ne leur coûte pas non plus leur discernement. Et quant à la critique négative, certains journalistes disent préférer mettre en avant des adresses qu'ils ont aimées plutôt que de dézinguer un établissement qui a peut-être été, ce jour-là, sous-staffé, par exemple. Car un repas ne suffit pas à tout dire de la qualité d'un restaurant. Esterelle Payani, critique gastronomique pour les pages de Télérama, raconte que le fait de rencontrer un problème au restaurant, dans sa commande ou dans son assiette, peut devenir un fil à tirer intéressant pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'établissement en question.
Il y a une petite différence que j'aime faire entre critique et chronique. On n'en parle jamais de cette différence-là, elle est assez tue. Moi, je paye mes additions. Alors, on te dira, ça ne fait aucune différence, le fait de payer. J'ai de la chance de travailler pour un média qui me rembourse l'addition. J'ai aucun mérite là-dessus, j'ai cette chance-là, puisque ça peut me permettre de dire ce que je veux. Donc, à l'heure actuelle, dans les médias gastronomiques, il y a un vrai angle mort qui est que la plupart du temps, c'est des pages où on est invité par les attachés de presse dans les restaurants. Et que la plus grande latitude qu'on ait, c'est de dire « je choisis de ne pas parler de ce restaurant, même si j'y ai mangé, parce que je ne souhaite pas le conseiller à mes lecteurs ». Et la plupart du temps, pour les critiques négatives, on n'est plus si nombreux à avoir le pouvoir d'en faire. Donc, la critique, parfois, elle fuit les médias. Et tu vas la retrouver dans les avis Google, qui peuvent être manipulés, dans les TripAdvisor, qui peuvent faire l'objet de chantage auprès des restaurants. On m'en raconte souvent. Si vous ne m'offrez pas un plat, je vous fais une mauvaise critique. Il y a autant d'abus de toutes les façons. Pour moi, c'est ne pas voir le critique comme un juge absolu. C'est aussi... C'est un métier à fantasme, le critique. On nous imagine exactement comme Anton Ego dans Ratatouille. Oui, je cite beaucoup Ratatouille, mais pour moi, c'est un film que beaucoup, beaucoup de gens ont vu et qui est beaucoup sur les stéréotypes autour de la restauration. Et on nous imagine comme des gens très froids, difficiles à être touchés, intransigeants. Je déteste être vue comme ça. Alors oui, je suis exigeante, mais je suis surtout une éponge. J'ai besoin de comprendre comment ça se passe, quel est ce lieu, il faut vite comprendre les enjeux de la petite pièce de théâtre qu'on va avoir devant nous. Donc pour moi, le critique de demain, c'est un passeur d'émotions, de moments, d'histoires, et qui peut dire avec honnêteté, c'était moins bien, mais ça peut être moins bien, mais c'est pas si grave si c'est moins bien quand je sais pourquoi. Quand je peux expliquer que ce jour-là, dans le restaurant, un plafond s'est effondré entre le plat et le dessert et que c'est pour ça que j'ai attendu mon dessert une demi-heure, ben, c'est de la vie, ça fait partie des vies des restaurants, c'est pas très grave. Moi, les critiques les plus intéressantes, c'est souvent quand j'ai un problème au restaurant, parce que je sais en face comment les gens vont réagir. Ce n'est pas grave d'avoir un cheveu dans son plat. Si en face, j'ai quelqu'un qui va me dire « je vous le change tout de suite » et qui va avoir un tout petit geste, m'offrir le café, par exemple, ça suffit. Parce que je sais que mes lecteurs, dans tous les cas, quels qu'ils soient, ils vont être bien traités dans ce restaurant, ils vont être considérés, pas uniquement pour leur portefeuille, mais comme des personnes dont on prend soin. Et je dis toujours, c'est dans les accidents que je vois qui sont les restaurants. Dans la petite difficulté, dans l'humanité, dans l'aspérité, là, j'ai toujours des choses intéressantes qui se passent. Il y a eu des erreurs où j'ai aligné des restaurants pour des vraies erreurs, mais parce qu'en face, on m'a dit « c'est pas grave, c'est faux, c'est le stagiaire qui a fait l'erreur ». Oui, mais j'estime que c'est le chef qui doit quand même contrôler au pass avant de passer. Et je me suis dit, là, j'ai failli dire mes clients, mes lecteurs, parce que je considère qu'ils sont mes clients quelque part. C'est eux qui ils sont abonnés au journal, ils payent mon salaire. Donc c'est vraiment pour eux que je travaille. Ben, si je vois qu'il y a une petite difficulté, l'intérêt, c'est la réaction. C'est cette humanité-là qui va dire comment ce restaurant est géré, dans quelle équipe. Et quand on me dit c'est la faute d'un tel ou d'un tel, je sais que ça ne va pas dans l'équipe. Parce que dans ce cas-là, on devrait dire oups, désolé, toutes les excuses, on va regarder ce qui s'est passé. Je me souviens d'un restaurant où, alors ça je vais la raconter parce qu'elle est quand même, c'était un petit restaurant indien du 17e. C'est pas facile de trouver la bonne resto indienne à Paris. Hein. J'avoue que c'est quelque chose que je regrette et à chaque fois j'y vais. Et dans ce petit restaurant indien du 17e qui avait une formule à midi pas mal du tout, ben il y avait un raita. Et dans mon raita, je trouve un morceau de plastique. Oups. Et alors, j'ai vu la réaction du serveur. Il s'est liquéfié. Il m'a tout de suite enlevé le plat. Il me dit, vous allez pas payer, vous allez pas payer. Je dis, non, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi ? Il me dit, il prend le morceau et tout. Il revient 5 minutes après en me disant, écoutez, j'ai compris, on a des grands pots de yaourt à la grecque, il y a une petite languette, vous savez, vous la voyez, vous la cassez avant d'ouvrir, cette languette a sauté dans la préparation. Et comme elle est blanche, la languette, Vous savez, en cuisine, on travaille sur beaucoup avec du plastique vert et bleu pour que si jamais, ou des pansements bleus, on a toujours des choses colorées pour que si ça tombe dans les préparations, on les identifie. Mais la languette de votre pot de yaourt, elle est blanche, c'est un truc blanc. Et il m'a dit, bah maintenant, on sait, on va les ouvrir à un autre endroit. Il m'a dit merci. Et je lui dis, je paye ma note. Il m'a offert le café et après, je me suis présentée, on a discuté. Il m'a dit, oh là là, mais vous allez dire que ça ne va pas du tout, notre restaurant. Je lui dis, non, puisque vous avez trouvé où était le problème, la résolution. Et qu'est-ce que vous alliez faire pour les clients ? Et bien maintenant, je sais surtout que mes lecteurs vont être super bien traités chez vous. Qu'est-ce qui comptait ? Le morceau de l'imperfection ou l'humanité qu'il y a eu derrière pour arriver jusqu'à nous ? Je crois que pour moi, c'est ça, être critique.
Pour Estherelle Payani, être critique gastronomique, c'est aussi savoir résister aux sirènes de la starification. Car chroniquer un restaurant en vue et être dithyrambique, c'est aussi être souvent reposté par le ou la chef, gagner en visibilité et voir son influence de journaliste gonfler.
Je passe ma vie à changer de lunettes. Parce que finalement, ce que moi, j'aime, ça importe peu pour les lecteurs d'un journal. Je vous mets au défi de savoir ce que j'aime manger dans un restaurant parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis qu'un transmetteur. Je suis une éclairagiste qui permet, je vais manger par procuration. Pour les lecteurs. Donc, ils ont plein d'occasions dans leur vie. Personne ne va scruter un restaurant avec autant d'attention que ce que moi, je suis censée faire. La plupart des gens parlent au restaurant au lieu d'être fixés sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, il faut se mettre dans leur basket et se dire « Tiens, j'ai l'anniversaire du petit dernier à fêter. Tiens, j'ai envie de manger un cassoulet. Tiens, j'ai envie de savoir où c'est qu'il y a un super steak tartare. Moi, j'aime beaucoup la cuisine végétarienne. Ben, ça ne m'empêche pas d'aller manger un steak tartare parce qu'eux aussi, ils aiment ça. Enfin, il en faut pour... C'est essayer d'en avoir pour tous les goûts. J'ai dit toujours, c'est pour... On essaye d'ouvrir les chakras, en fait, quand on est critique culinaire. Et on peut reproduire non-stop des normes sociales ou des normes de genre ou avoir une vision très normée de la gastronomie. C'est même encouragé. Parce que quand vous faites une critique positive, le chef va vous reposter et vous gagnez en notoriété en tant que critique. Quand vous passez du temps à chercher, à dénicher des adresses moins connues, un peu sous les radars, ou qui ne sont pas là pour l'apparat, mais vraiment pour nourrir les gens, ben, vous gagnez moins d'audience en tant que critique. Mais vous rendez un service supérieur à vos lecteurs, à mes yeux, parce que vous leur indiquez où bien manger. Je ne suis pas sûre d'y être assez attentive, et je crois que la starification des chefs, c'est ce qui fait que peut-être qu'un jour, je ne serai plus journaliste gastronomique. Parce qu'on a toujours... On se dit que dans nos métiers, on a une responsabilité, parfois, d'avoir encensé des personnes qui n'ont pas des attitudes extrêmement positives envers leur brigade. Et on a une responsabilité médiatique dans les gens qu'on expose, mais on ne peut pas tout savoir en tant que journaliste. On a des moyens très limités. On essaye de se renseigner. Et puis, on en revient toujours à la fameuse séparation de l'homme et de l'artiste, qui fait tant débat. Après, quelle est la... on se demande toujours si on traite bien les gens dans les brigades. Est-ce qu'on traitera bien les clients aussi ? Jusqu'où ça va ? Après, on peut autant questionner nos méthodes de journaliste. Hein. De la même façon, les chefs peuvent se questionner sur comment on travaille. On aurait intérêt à plus de transparence. Mais je crois que les gens n'ont pas forcément envie de transparence. Les lecteurs peuvent avoir envie de belles histoires. Et la gastronomie française, c'est une belle histoire qu'on aime raconter et perpétuer. Et parfois, quand on touche un peu au mythe du chef omniscient, omnipotent, ça devient compliqué à perpétuer. C'est pas un miroir dans lequel on a forcément envie de se regarder.
Voilà, ce premier épisode nous a permis de dégrossir quelques enjeux du métier de critique culinaire. Mais celui-ci est si protéiforme qu'il est parfois difficile de s'en faire une représentation claire. Le mystère qui entoure le fonctionnement de la critique culinaire lui vaut souvent des critiques, justement. Intransigeance injustifiée, manque d'empathie pour le travail des équipes, arrogance, quelles sont les dérives possibles du métier ? Comment expliquer l'influence de la critique gastronomique et des classements sur le secteur des restaurants ? En quoi le fait de découvrir une critique acerbe ou de perdre une étoile peut-il réellement blesser les restaurateurs et restauratrices ? Et classer les restaurants a-t-il une utilité autre que celle du spectacle ? Pour une critique de la critique culinaire, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2 de cette série. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.